franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'empereur Constantin. Constantin dit le Grand, et en effet, cet homme est immense. En cette première moitié du IVe siècle, il regroupe l'Empire tout en déplaçant peu à peu son centre de gravité vers l'Orient. Législateur sévère, il se comporte en grand souverain romain classique, attentif à son administration et plus encore à son armée, mais il est aussi l'homme d'un pari qu'il considère peut-être comme une mission, du christianisme encore très fragile et qu'il décide de soutenir. Il va faire l'armature de son empire. Le sort de l'État en sera transformé, mais aussi celui du christianisme, minorité hier, le voilà, qui accroît soudain son rayonnement, gagne en puissance et puis aussi en conformisme ou en conformité. Pierre Maraval est notre invité, bonjour.
Bonjour.
Qui vient de publier chez Talendier, Constantin le Grand. Alors vous êtes un historien de l'Antiquité tardive, du christianisme débutant. Vous avez édité des lettres et des discours de Constantin, c'était l'année dernière, aux éditions des Belles Lettres. Il y a beaucoup de sources autour de cet empereur.
Beaucoup de sources, bien sûr. Je passe rapidement sur toutes les sources telles que les monnaies, les inscriptions, sources importantes, bien entendu. Un bon nombre d'historiens de l'époque se sont intéressés à lui. Et donc, on a déjà une vie de Constantin un an après sa mort. Évidemment, une vie très particulière, c'est celle de l'évêque Eusèbe de Césarée, qui, évidemment, pour les modernes, n'est pas une biographie au sens propre du mot, c'est plutôt une hagiographie. Il s'agit de nous montrer le saint empereur à l'œuvre. Et donc, c'est un texte important, mais il y en a bien d'autres par lesquels on peut corriger Eusèbe, parce que Eusèbe, évidemment, a quand même un petit peu embelli le tableau. Et heureusement aussi, il y a des historiens qui lui sont hostiles. Donc on peut, si je peux dire, essayer de faire la part des choses.
Je crains, Pierre Maraval, que vous deviez nous corriger, nous. Parce que nos sources, notamment en matière filmique, sont évidemment assez discutables. Le chrétien pardonne les offenses, vous pardonnerez les offenses faites à l'histoire. On va entendre à plusieurs reprises des extraits d'un péplum italien des années 1960, signé Lioleno de Felice, et qui commence à l'instant où Constantin est encore dans les starting blocks. Le règne de Dioclétien ne s'est pas achevé. Dioclétien qui, en 303, déclenche une terrible persécution des chrétiens.
Ils doivent être en train de juger un chrétien.
Il serait peut-être intéressant d'y assister.
Pourquoi pas?
Ouvre.
Tu vas voir, ce sont d'excellents acteurs. S'ils jouaient des tragédies de Sénèque, ils auraient beaucoup de succès.
Approche. De quel pays es-tu, femme?
La seule chose qui intéresse les juges, c'est ma foi. Et je suis chrétienne.
Tu sais que ton obstination risque de te coûter la vie.
Un chrétien ne craint pas la mort.
Tu dis cela maintenant? Mais quand arrivera le moment et que tu seras seul?
Nous ne sommes jamais seuls, tu sais. Dieu est avec nous.
Règne de Dieu, prions.
Nos frères sont en train de subir le martyre. Prions pour eux, pour qu'ils ne faiblissent pas au moment suprême. Prions afin que la foi les soutienne.
Nous ne sommes jamais seuls. Ils sont quand même très minoritaires, les chrétiens, à ce moment précis.
Oui, et ils sont minoritaires, au moins dans certaines régions. Enfin, disons qu'en Occident, certainement, ils sont minoritaires. En Orient, il y a quand même des régions où ils sont assez nombreux. Et donc, c'est peut-être leur nombre qui a incité Dioclétien à engager cette grande persécution, puisque c'est ainsi qu'on dénomme la persécution de Dioclétien, qui a commencé donc en 303 et a duré jusqu'en 311.
Mais alors, Dioclétien, qui va quitter le pouvoir en 305, l'avait établi sur une base qui nous paraît assez étrange. Il faut que vous nous éclairiez aussi du point de vue politique ce début du IVe siècle. Je disais que Constantin était dans les starting blocks.
Oui.
Enfin, je ne sais pas si l'expression est tout à fait convenable. Ça fait un peu péplum.
Alors, il faut comprendre que Constantin était le fils d'un empereur, parce que Dioclétien avait inventé un système qui devait, à son avis, assurer de manière harmonieuse la succession, le gouvernement de l'Empire. L'Empire était vaste, donc il l'avait, si je puis dire, divisé en quatre, et donc on avait deux Augustes et deux Césars qui étaient envoyés dans une région diverse et qui gouvernaient donc des régions plus ou moins étendues. Alors, tout ceci sous la direction de Dioclétien lui-même, qui était le premier Auguste. Le père de Constantin était César, était un des Césars, mais Dioclétien avait décidé, au bout de 20 ans de règne, de démissionner.
305.
En 305, il avait jugé qu'il fallait passer la main. Et donc les deux Augustes devaient démissionner, les deux Césars devenaient Augustes et on choisissait de nouveaux Césars. Alors Constantin, fils de Constance Chlore, donc qui était un César qui devenait Auguste, comme Maxence, qui était le fils de l'autre Auguste, avait peut-être l'idée qu'il serait choisi. Mais l'idée de Dioclétien, c'est qu'on devait être choisi au mérite, hein, et non pas en fonction de sa filiation.
C'est-à-dire que dans ce système qu'on appelle la tétrarchie, le principe familial va le disputer assez rapidement,
oui,
au principe du mérite tel que l'avait envisagé Dioclétien. Alors, nous sommes dans l'Empire d'Occident. Vous avez cité Maxence. Maxence veut régner sur quelle zone ?
Alors, Maxence, lui, va revendiquer... il va être proclamé après Constantin, hein,
ouais,
parce que Constantin sera proclamé empereur par les troupes de son père, qu'il avait rejoint d'ailleurs, il avait quitté Nicomédie à toute allure.
Nicomédie, c'est en Asie mineure.
Nicomédie, ouais, c'est là où se trouvait Dioclétien. Hein, c'était au fond le siège de Dioclétien.
Il est basé où, Constantin, alors ?
Eh ben, Constantin était à Nicomédie,
oui,
précisément,
mais...
pendant la persécution. Il a assisté à la persécution. Et donc, il a quitté Nicomédie juste après la nomination des successeurs des nouveaux Césars, dont il n'était pas, pour rejoindre son père. Il a quitté, il a rejoint son père. Et son père était allé se battre contre les Scots en Angleterre. Donc, et il meurt à York. Et c'est à ce moment-là, donc, Constantin va être proclamé Auguste par ses troupes.
Auguste d'Occident.
Auguste
d'abord
d'Occident.
D'abord à York et basé à Trèves. Et alors
voilà.
Maxence, lui, il revendique l'Italie.
Alors Maxence donc, était aussi le fils de l'autre Auguste. Et il va... à Rome, et se trouvant à Rome, il va un jour, lui aussi, se faire proclamer par ses troupes. Là, d'ailleurs, au début, prudemment, il ne se fait pas proclamer Auguste, mais enfin, bon, ça, c'est un détail. Donc, on a un concurrent.
On n'est pas à un détail près, comme
bien
dans
sûr.
Le péplum.
Oui, bien sûr.
Il faut qu'on entende la suite. Nous sommes maintenant au Sénat de Rome. Constantin, qui se veut seul souverain en Occident, a envoyé un ambassadeur qui est fort mal reçu par les sénateur partisan de Maxence.
Arrêtez cet homme, il offense le Sénat romain. Au galère, au galère, l'envoyé du tyran.
Vous êtes des rebelles.
Au galère.
Constantin réprimera cette révolte. Vous entraînez l'État à la ruine. Ce sera la guerre civile. La guerre.
Je propose que toutes les lois édictées par Constantin soient enfin soumises à l'approbation du Sénat. Je propose de suspendre la trêve accordée aux plus tenaces et aux plus dangereux ennemis de Rome. Les chrétiens, libérons-nous enfin de cette épouvantable gangrène.
Au galère,
vive Maxence !
Vive Maxence !
Vive Maxence !
À vous de décider, sénateur. À vous de dire si vous choisissez Maxence pour empereur.
Mais un péplum italien de 62, c'est nécessairement démocrate chrétien et très préoccupé de la question religieuse. Je sais bien que le christianisme était une question brûlante au début du IVe siècle, mais pas à ce point.
Pas à ce point. De toute façon, évidemment, le péplum est très calomnie Maxence, qui en fait avait lui aussi cessé la persécution. Et même, selon certains auteurs, il aurait été chrétien. Bon.
Enfin, vous savez, les vaincus, vous le dites souvent dans votre Constantin le Grand, portent tous les péchés et sont toujours désignés comme des tyrans. Maxence va livrer bataille au nord de Rome, sur les bords du Tibre, au pont Milvius. Nous sommes en octobre 312, à Constantin, venu à la tête de ses troupes.
Je ne peux pas abandonner l'Empire. Je ne peux pas laisser le pouvoir entre les mains d'un être fourbe, d'un homme sans pitié, dit principe. Soldats,
Tout à l'heure, nous allons attaquer Rome. Chacun de vous se trouvera peut-être devant un des siens, un frère ou même un fils. C'est la guerre civile. L'histoire juge toujours sévèrement ceux qui la provoquent. Mais je ne crains pas son jugement en ce qui nous concerne, parce que nous nous battrons cette fois pour une bonne cause. Sous le signe de la justice, sous le signe de la croix, je ne vous oblige pas pour autant à l'accepter comme symbole de votre foi.
Voilà, 312, vive Constantin. Maxence est emporté par un tourbillon dans le Tibre et Constantin est le seul empereur dans la partie occidentale de l'Empire. Je ne sais pas s'il y a eu un discours. On dit qu'il y a eu un songe.
Alors oui, si vous voulez, il faut bien voir que la victoire sur Maxence a été considérée comme quelque chose d'assez extraordinaire. Car dans les cinq années avant le 312, deux empereurs s'étaient cassés les dents sur les murs de Rome. Rome était bien protégée par le mur d'Aurélien. Et donc Constantin arrivait de Trèves avec une armée inférieure en nombre. Et si Maxence, je pense, était resté prudemment à l'intérieur de ses remparts, Constantin ne l'aurait peut-être pas emporté. Enfin, bon, donc Constantin l'a emporté parce que Maxence, entre autres, est sorti des remparts
mais pour
une vraie bataille.
Parce que, dans un songe,
alors,
juste avant la bataille, il a su qu'il l'emporterait.
Alors, le songe, il faut, là aussi, l'historien ne peut rien dire sur les songes. C'est une méthode qu'on rencontre très souvent dans l'histoire, les songes, les visions, parce que donc il y a à la fois songes et visions. Si vous voulez, le premier qui parle de ce songe, c'est Lactance, qui en parle peu de temps après, 4 ou 5 ans après. Puis alors, ça se développera jusqu'à la fameuse vision qui aurait eu lieu juste la veille de la bataille. Mais là, c'est Eusèbe qui en parle, il en parle 20 ans après. Donc, bon.
Et alors, beaucoup de siècles après, dans le Péplum de 62, je le cite encore, de Felice, parce qu'on ne l'écoutera plus dorénavant. La victoire, elle est due à la croix portée sur les boucliers. La croix.
Alors, la croix, oui, c'est d'abord tout à fait douteux. De toute façon, Lactance, qui est quand même mieux renseigné, nous dit qu'il avait fait graver un signe qu'il nous décrit de manière un petit peu, d'ailleurs, curieuse, et qui, en fait, doit être le chrisme. Le chrisme, les deux premières lettres, ce sont les deux premières lettres grecques du nom du Christ, le qui et le rho. Et donc, si vous les mettez ensemble, ça vous donne au fond une étoile un petit peu. Et donc,
on retrouve ça sur les chasubles dans la liturgie catholique encore aujourd'hui.
Oui, sans doute, oui, bien sûr, oui. Et puis on le retrouvera surtout sur le labarum, sur le drapeau de Constantin. Mais plus tard, à ce moment-là, d'abord, il est certain que ça n'a pas été sur tous les boucliers. Si ça a été sur quelques boucliers, c'est bien le plus. Et de toute façon, le signe reste ambigu. Hein, parce que c'est peut-être aussi un signe solaire. Il faut bien voir que depuis des années, depuis 311 entre autres, Constantin s'est mis sous la protection d'Apollon, qui est l'équivalent du dieu soleil. Donc c'est un signe encore un peu ambigu.
C'est du monothéisme débutant
et neutre. C'est du monothéisme, parce que bon, Constantin venait d'un milieu monothéisant, monothéisant, si vous voulez. Le dieu qu'il invoque avant la bataille, ce n'est pas encore le dieu chrétien. Hein.
Alors nous sommes maintenant après la bataille, entrée triomphale sans doute, à Rome, et puis érection. Constantin a été un des derniers grands constructeurs de Rome. Érection d'un arc de triomphe qui est une sorte de, il existe encore, de musée de la sculpture officielle romaine. Alors là, nous avons encore un problème de source, Pierre Maraval. On a laissé tomber le péplum, on est passé du côté des archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Il y a un universitaire sans doute qui parle, on ne sait pas qui c'est. C'est une devinette archéologique supplémentaire.
Il ne m'appartient de parler aujourd'hui ici que de l'arc monumental de la voie sacrée, l'arc de Constantin. C'est le plus grand et le mieux conservé des arcs de Rome. Il fut élevé peu après 318, précisément, pour rappeler la victoire sur Maxence au pont Milvius. Quel étrange monument tout de même que l'arc de Constantin, où l'on a usurpé du haut en bas à l'occasion tout ce qui pouvait resservir. des bas-reliefs du temps de Trajan, la grande frise des entreprises, du temps des Antonins, l'Adventus de Marc Aurèle, par exemple, voire les grands tondis, médaillons de chasse d'Adrien. Ce n'est pas tout, on a pu se demander si le Sénat n'avait pas utilisé une création antérieure de Dioclétien et fait substituer certaines têtes princières nouvelles ici et là. On a refait des portraits de Constantin et sur d'autres effigies, notoirement. C'est lui qui portait l'inscription dédicatoire avec l'énigmatique formule « Instinctu divinitatis ». Il y avait eu, semble-t-il, dans cette expression très étudiée, le résultat d'une transaction entre les nouvelles croyances du premier empereur chrétien et celles du Sénat romain resté païen pour la majorité.
Alors, Pierre Maraval, avez-vous identifié cet orateur de 1954 ?
Non, non.
Ah ben, ça commence bien.
Non, mais...
Parce que il y a une énigme encore plus importante à démêler que cet orateur, dont les grésillements, on l'a deviné, signale qu'est-ce que c'est que cette inscription ? Il a vengé l'État sous l'inspiration de la divinité, instinctu divinitatis.
Alors, aujourd'hui, on considère que l'arc de Constantin, ce n'est pas lui qui en est responsable, si je puis dire. Il a été édifié par les sénateurs pour les décennales de Constantin, c'est-à-dire en 315. On nous a dit 318, non, l'arc est de 315. Et tout dans l'arc est sénatorial.
Les sénateurs, c'est le camp retranché des païens.
Oui, bien sûr. Le sénateur est composé essentiellement de païens. C'est la vieille aristocratie païenne. Et donc, le Sénat a édifié un monument dont la tonalité n'est pas du tout chrétienne. Il n'y a pas le moindre symbole chrétien. Les soldats ne portent pas du tout sur le bouclier un symbole chrétien. Et donc la tonalité générale est même apollinienne. Alors bon, ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a été dit sur les statues retaillées, c'est tout à fait exact. Venons-en donc à l'instinctu divinitatis. On a souvent pensé donc que Constantin lui-même était responsable de cette formule et qu'il voulait dire effectivement qu'il avait pris une forme assez neutre pour complaire à tout le monde, à la fois aux chrétiens et aux païens. Mais des études récentes ont montré que les chrétiens n'utilisaient pas, quand il parlait de Dieu, le mot instinctus. Il parlait d'inspiration. Instinctus, ils en parlent plutôt pour les démons. Hein. Et donc, c'est le Sénat qui a mis cela. Parce qu'il faut bien voir que, au fond, les païens aussi ont considéré que c'était une victoire donnée par Dieu.
Donc, il est à la recherche du dénominateur commun. Il ne va pas contre les sénateurs. Il ne veut pas démanteler le paganisme dans cette première période. Il se garde bien d'imposer le christianisme, mais il favorise quand même les évêques, les communautés chrétiennes. Et à Rome, dernier grand constructeur de la capitale traditionnelle de l'Empire, on lui doit un certain nombre de constructions et la basilique Saint-Pierre, son d'archives, journal télévisé de Milan.
Tous les pèlerins connaissent, sous le maître-autel de la basilique, au fond de cette fosse, la tombe de Saint-Pierre. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière cette tombe s'étire l'artère principale d'un cimetière romain, c'est-à-dire une sorte de village réservé aux défunts. La plupart de ces tombes, en forme de villa richement décorées, ont été construites juste après la mort de Pierre. Le sentier monte doucement le long de la colline du Vatican et les sépultures s'alignent tout au long de la promenade. Et si tout est aussi bien conservé, c'est parce que 200 ans après la mort de Pierre, l'empereur Constantin, fraîchement converti, décide de construire au-dessus de sa tombe la première version de la basilique qui porte son nom.
Constantin rase une partie de la colline parce que à cet endroit, on avait des preuves de la tradition de la présence de Saint-Pierre. Et donc Constantin construit l'autel de sa grande basilique au-dessus de la tombe de Saint-Pierre.
Quel intérêt à s'appuyer sur les communautés chrétiennes comme celle de Rome avec son évêque, successeur de Pierre ?
Bon, il faut bien voir que là, Constantin a fait un véritable... a manifesté d'abord ses propres sentiments. Parce que je crois qu'on ne peut guère douter que Constantin se soit converti au christianisme, même s'il est difficile, évidemment, de définir exactement sa foi. Et donc, Constantin, avant peut-être d'évoquer ces mesures qu'il prend en faveur du christianisme, il faut quand même évoquer ce qu'on appelle improprement l'édit de Milan, qui donne la liberté à tout un chacun de pratiquer la religion de son choix. avec d'ailleurs incontestablement une préférence pour le monothéisme, un monothéisme pas nécessairement chrétien, mais enfin le monothéisme. Alors Constantin, ensuite, bon, à Rome, il ne fera pas bâtir, disons-le tout de suite, que des églises. Il s'occupera aussi de quantité de monuments. Mais il va financer, parce que ce n'est pas nécessairement lui qui est responsable absolument de la construction, il va financer la construction de ces églises, en étant d'ailleurs assez prudent, parce que très souvent, elles sont bâties à l'extérieur de ce qu'on appelle le pomerium, qui est donc l'espace sacré de la ville ancienne. Donc toutes les basiliques qu'il va favoriser, dont celles-là, sont à l'extérieur un petit peu.
Neutralité, prudence. Vous évoquiez l'édit de Milan, il est signé avec l'empereur d'Orient, Licinius, en 315. Mais en 324, les choses changent. Victoire de Constantin sur Licinius, déplacement du centre de gravité de l'Empire vers l'Orient, où il refonde, sur le site ancien de Byzance, Constantinople.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just liked it better that way.
Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.
Constantin le Grand, refondateur de Constantinople, chanson de 1953. Pierre Maraval est notre invité qui fait preuve de beaucoup d'indulgence sur nos choix musicaux et filmographiques. Vous venez de publier chez Talendier, Constantin le Grand. Constantinople, il la refonde, mais pour y construire des remparts, bien sûr, un palais, un hippodrome, peut-être même pas une église, toujours la même prudence.
Oui, on ne peut assurer de la construction que d'une église, celle où il comptait se faire enterrer. L'église des saints apôtres.
Un mausolée, alors.
Un mausolée, finalement. Puis, donc, Constantin n'a pas voulu transformer Constantinople en une ville chrétienne. Ça l'est devenu peu à peu, c'est certain. Et donc, il est même certain que, lors de l'inauguration, on a utilisé des rites païens traditionnels. A-t-on ajouté des rites chrétiens? C'est possible, mais enfin, on n'en sait rien.
L'hippodrome que votre maître Gilbert Dagron décrit dans un nouveau livre est le lieu d'une cérémonie étrange que vous décrivez, vous, dans votre livre, et que ici, Yann Thomas reprend à sa façon.
Voici l'extraordinaire scène. Un char de bois porte la statue de bois de Constantin. Ce char fait le tour de l'hippodrome face au peuple médusé, c'est-à-dire à ce qui survit du corps politique romain. L'appareil mobile s'arrête devant la tribune impériale, et là se produit une scène extraordinaire, c'est que Constantin en personne s'incline devant sa propre image. Cette image romaine, cette image impériale romaine, elle rend présent ce qui est absent. Par exemple, lorsque l'empereur n'est pas là, eh bien les traités passés avec les vaincus, avec les barbares vaincus, avec les peuples étrangers, ces traités sont passés entre eux, le chef de tel ou tel peuple et la statue impériale. Autrement dit, l'image assure ce que nous appellerions aujourd'hui l'ubiquité de l'État.
Alors, il appartient, avec ce système de représentation, au monde des dieux païens encore. Et puis de l'autre côté, quand il est empereur d'Orient, il y préside des conciles, le fameux concile de Nicée, où il se présente comme l'évêque de ceux qui sont dehors.
Oui,
alors c'est étrange.
L'empereur, il faut quand même dire que à son arrivée en Orient, il a aussi écrit des lettres, où il a quand même très nettement affirmé son choix pour le christianisme, hein, tout en disant d'ailleurs qu'il tolérait toujours l'existence des païens. Mais donc il a été amené effectivement à s'occuper des problèmes de l'Église. Car il faut bien le souligner, si l'empereur était intervenu dans l'Église, c'est parce que, au fond, l'Église le lui a demandé. Déjà, en Occident, il avait dû s'intéresser au problème, un problème qui divisait l'Église d'Afrique, les donatistes. Quand il arrive en Orient, les évêques se disputent autour de la divinité du Christ. C'est le problème posé par Arius. Et Constantin va d'abord essayer de régler le problème en adressant une lettre aux protagonistes, en faisant réunir un concile à Antioche. Et puis, donc, comme... on continue de se disputer, que Constantin a un grand souci d'ordre public. Il faut bien voir que cet élément est très important. Constantin donc convoque un concile de tous les évêques de son empire. En réalité, il y aura évidemment surtout des évêques d'Orient. Il y aura très peu d'Occidentaux. Il y aura 5 ou 6 Occidentaux qui feront le voyage. Et donc, ce concile va siéger en présence de l'empereur. L'empereur viendra faire un discours au concile et... Si on en croit Eusèbe, il y jouera un rôle tout au plus de modérateur. Hein, de modérateur. C'est pas lui, bien entendu, qui va définir, qui va prendre une définition en matière de foi. Hein. Il est probable qu'il va pousser les évêques à accepter une formule élaborée par une petite commission. Ben, je ne pense pas du tout que ce soit lui qui est... qui a décidé cela.
Il aime bien que l'Église soit un chef-d'œuvre d'organisation. En même temps, du coup, en passant peu ou prou sous son contrôle, les communautés chrétiennes, qui étaient relativement indépendantes jusque-là, se retrouvent en conformité, voire dans une situation de conformisme par rapport au pouvoir.
Il est certain que, évidemment, Constantin a jugé que l'Église était une puissance utile. Et par exemple, quand il accorde des privilèges, par exemple, aux clercs chrétiens. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, que ceux des clercs païens. Mais ça veut dire qu'il trouve qu'ils ont une place réelle dans son empire, une place utile. Quand il accorde aux évêques le droit de juger en matière civile, en faisant d'ailleurs confirmer leur jugement par les juges, n'est-ce pas ? On voit bien qu'il a le souci de les mettre vraiment en place.
Dernière étrangeté quand même, 337, il approche de la mort, c'est seulement à ce moment-là qu'il se fait baptiser. Vous me direz que le fait de ne pas avoir été baptisé, ça lui a permis de tirer l'épée quand il le fallait, de tuer qui il fallait.
Oui, c'est vrai.
Quand il était roi.
Bon, cette idée du baptême tardif, d'abord, est très répandue à l'époque, et beaucoup de chrétiens qui avaient des responsabilités en matière, justement, de justice, on leur recommandait, en tout cas, de s'abstenir de l'Eucharistie. Il faut voir que l'homicide a été très longtemps une faute qui demandait de longues années de pénitence.
Donc ça n'a pas été un saint, même si l'Église l'a décrété telle après sa mort, parce
l'Église
que
grecque.
Ça l'arrangeait.
L'Église grecque.
Est-ce qu'il a été homicide ? Alors la réponse sur le sort de l'impératrice Fausta, le sort du fils aîné Crispus et le personnage d'Hélène, vous trouverez ça dans Constantin le Grand chez Talendier, avec beaucoup d'autres réflexions plus pertinentes encore. Pierre Maraval était notre invité. Merci.
Et l'information du jour, le gouvernement s'attaque aux niches fiscales.
Oh, ça nous concerne, ça, chérie ?
Bon, non. Nous, on vient de s'affilier après fonds retraite. Tu sais, le 30-25. Cette année, on baisse nos impôts et on se prépare en plus un bon petit complément retraite 100% sécurisé.
Ah, enfin une bonne nouvelle. Vous aussi, appelez l'après-fonds au 30-25. Un conseiller vous répond. Appel gratuit depuis un poste fixe. France 3.
Je prends l'ensemble de l'histoire de mon parti et j'assume tout.
Histoire immédiate revient sur 40 ans de Front National. Le diable de la République, un document inédit suivi d'un débat avec Samuel Etienne. Demain à 20h35 sur France 3.
Voilà, ce sera notre thème avec Grégoire Kaufmann demain dans la marche de l'histoire. Tout à l'heure chez Mathieu Vidard, les météorites et le générique. Ça rime, Michel Bézikian, Alexandre Chenet à la technique, Frédéric Martin, Meryl Moneghetti, Franck Olivard à la préparation, Jacques Sigal à la réalisation. Il est 14h.